Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres avec moi-même au micro et moi-même à la technique. Oui, on a décidé de changer un petit peu, mais vous pouvez retrouver les dernières émissions sur la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine des océans. Attention, éloignez les enfants, on va passer une pub gouvernementale pour une action gouvernementale.
Que nous soyons pêcheurs ou montagnardes, navigatrices ou chauffeurs de taxi, que nous habitions près des côtes ou loin des vagues, pour nous tous, l'océan est vital. Parce qu'il nous nourrit, parce qu'il régule notre climat, parce qu'il nous permet de respirer. Nous dépendons tous de l'océan. Et le protéger, c'est nous protéger. Nous sommes l'océan. Pour accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs, la France accueille à Nice du 2 au 13 juin la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Ceci est un message du gouvernement.
La musique était bien quand même. Il semble donc que les libéraux qui nous gouvernent, parce qu'on se laisse faire, ont bien compris l'importance vitale, oui, vraiment vitale, de protéger le milieu aquatique. Et pourtant, toutes les parties prenantes ne sont pas sûres que la com suffise. Parce que de la com, il y en a. Invité sur France Info, lors d'une journée spéciale intitulée « Comment sauver les océans ?», ni plus ni moins, Claire Nouvian, fondatrice et directrice de l'ONG Bloom, fondée en 2004, est intervenue. Et attention, on n'est pas vraiment dans la com, là.
Vous venez d'entendre Emmanuel Macron, vous sentez enfin une prise de conscience ?
Non, pas du tout. Là, quand j'entends ça, j'ai envie de dire comme Shakespeare, words, words, words. Vraiment, des mots et des mots. Et on en a vraiment assez de ces postures, en fait, des chefs d'État qui utilisent des grandes plateformes comme ça internationales pour faire des déclarations qui sont jolies à entendre. Hein. On y croirait, franchement, si on n'est pas un spécialiste et si on n'est pas capable de décoder ce qu'il se passe réellement. Malheureusement, il n'y a eu aucune volonté de la part de la France de mettre à l'agenda de cette conférence sur l'océan les vrais sujets qui fâchent et dont on entend à votre antenne que Macron a parfaitement conscience. Enfin,
donc vous n'attendez, pardonnez-moi Claire Nouvian, vous n'attendez rien de concret de cette grande conférence à Nice ?
Alors moi j'ai des attentes très claires avec Bloom, très clairement les citoyens, nous avons des attentes, nous les formulons depuis des mois. Est-ce que mes attentes sont des espoirs, c'est autre chose. J'ai des attentes très claires, j'ai des attentes vis-à-vis des responsables politiques pour qu'ils agissent de façon à nous mettre à l'abri de la principale insécurité pour l'humanité que représente à la fois l'effondrement climatique et l'effondrement des écosystèmes et de la biodiversité. Malheureusement, il y a donc ces mots. Et à côté de ça, il y a des actes. Il n'y a rien dans les actes qui permettent de faire joindre justement la prise de conscience, ces belles déclarations. Rien, malheureusement, n'a été prévu par notre gouvernement en préparation de cette conférence. C'est vraiment un immense gâchis d'argent public. Je vous rappelle que cette conférence coûte plus de 60 millions d'euros alors que l'ancienne conférence des Nations Unies à Lisbonne a coûté 11 millions d'euros. Donc gâchis d'argent public pour une immense opération de communication d'un président qui s'affirme encore anti-écologique. Et c'est grave en fait parce qu'on est en 2025. Donc là, il nous faut des actes.
Ah oui, même si on était en 2024, hein. Mais elle a raison, 2025 c'est encore plus prégnant, il va falloir des actes. Bon, elle n'est pas la seule à parler d'enfumage et d'hypocrisie à propos notamment des aires maritimes protégées, et qu'il l'était déjà, des rustines sur des jambes de bois. Voilà à quoi servent la majorité des grands messes sur le climat, la biodiversité, les océans, l'environnement et tutti quanti. De fait, les racines de la destruction des océans, en l'occurrence la pêche industrielle, l'exploitation des ressources pétrolières, gazières, métalliques, le déversement de déchets, qu'il soit plastique, nucléaire ou autre, dans ce puits sans fond que sont les océans, ah mince, on s'est aperçu qu'il y avait un fond, ne sont en aucun cas remis en cause. Faut qu'on assure, nous dit le mauvais acteur mais vrai banquier, mardi 11 juin à la télévision, notamment à propos du plastique. Mais de là à faire quelque chose, ah ben il y a de l'effet d'annonce, hein. Ben oui, ils sont spécialisés dans l'annonce, surtout dans l'annonce quand il s'agit de verdir quoi que ce soit. Aussi, tant que le système capitaliste basé sur la philosophie libérale ne sera pas remis en cause, il pourra, lui et ses pairs et leurs successeurs, aller se faire voir derrière les les pupitres des conférences internationales et sur les plateaux télé pour nous enfumer avec des discours. Nos milieux de vie continueront pourtant à être détruits. On aurait pu vous parler de management toxique. Ce genre de management serait présent au lycée Touchard Washington avec un proviseur déjà épinglé par les professeurs du Bahut en juin 2019. Pour ces pratiques, mardi 10 juin, bis repetita. Un rassemblement devant les grilles de Touchard a réuni environ 150 personnes, des personnels et des soutiens, pour dénoncer le management toxique du proviseur. Ça ressemble à quoi un management toxique? Eh bien voici un son dont la voix a été modifiée pour éviter que la personne soit reconnue. Eh oui, on vous le dit, le manager est toxique.
Un management toxique, c'est quelqu'un qui considère que c'est lui le chef, qui ne supporte aucune contradiction, y compris quand ses décisions sont mauvaises, qui ne supporte aucune faiblesse, notamment de la part des collègues fragiles ou handicapés. Voilà, il vise l'efficacité, il se moque complètement de la souffrance qu'il peut infliger à des collègues. En plus, son efficacité est seulement son efficacité, absolument pas la nôtre. Je pense que quand un chef ne comprend pas que pour être efficace, il faut des collègues qui adhèrent à un projet et non pas des simples exécutants, et qui en plus va sanctionner de manière complètement arbitraire des gens qui vont exprimer leur désaccord. Et il a évidemment tout un potentiel de sanctions, hein, ça va de la note administrative, aux emplois du temps des enseignants, au projet des classes, pour faire suer les profs qui ne seraient pas d'accord avec lui, et il s'en sert allègrement. Et comme le rectorat n'a pour l'instant, en 7 ans, pris aucune décision pour sanctionner ces décisions injustes, eh bien il n'y a aucune raison qu'il s'arrête de nous nuire, sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec lui.
Ouais, le management a pour but d'organiser les ressources pour atteindre des objectifs. De fait, tout dépend des objectifs visés. Dans le cadre d'un management toxique, il faut comprendre que les objectifs du manager ne sont pas partagés par les ressources humaines. Une expression des plus moches pour désigner des êtres humains. Tout seul dans son coin, le manager décide et applique sans se soucier des conséquences pour les autres. On attend forcément une autre manière d'agir dans un service public. Les personnels de Touchard espèrent que le rectorat agira avant que les violences vécues n'amènent des drames. C'est d'ailleurs la substance d'un panneau accroché aux grilles du lycée, un panneau où on pouvait lire « Rectorat, où es-tu ? Car ici, on n'en peut plus ». On aurait pu vous parler des panneaux publicitaires vivants qui paradent dans leur combinaison de pilotes chaque année dans les rues du Mans, afin de vous balancer des machins en plastique que les gens s'arrachent, littéralement. Il n'y a pas des bastons, mais en tout cas, il y a un petit peu de virulence quand il s'agit de récupérer les cadeaux balancés par les pilotes. Et ça se passe avant la compétition qui fait déjà du bruit et qui va consister à faire tourner des bagnoles dont la pollution sonore n'est acceptée nulle part ailleurs. Et ça se passera pendant 24 heures. Et on pourrait vous parler également de ceux qui ont sauvé l'honneur en organisant une parade sans moteur et sans publicité en partant de la place des Comptes du Maine. Mais on le fera la prochaine fois. On aurait pu vous parler des millionnaires qui forment le gouvernement actuel, puisque la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a publié les déclarations de patrimoine du gouvernement Bayrou cette semaine. On n'avait pas eu trop le temps pour le Barnier. On vous enjoint donc à aller voir sur le site hatvp.fr/presse et vous tomberez dessus. Alors pas de voyeurisme derrière cette démarche, mais juste la constatation que nous sommes en ploutocratie, et oui, le règne des riches. Aussi, ne vous attendez pas à ce que les richesses soient mieux réparties. Eh ben non, les riches qui répartissent les richesses, ça serait, ils seraient plus riches. Tiens, sans transition aucune, jeudi 12 juin au Sénat, la droite, ce que les médias appellent le centre, et l'extrême droite, ce que les médias appellent les républicains, ont majoritairement voté contre la taxe de 2% sur les 1800 ménages en France qui possèdent un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Donc sur les 321 voix exprimées, eh bien il y en a à peu près 200 qui se sont exprimés contre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont de droite et d'extrême droite. En ce moment, ceux qui sont le mieux protégés par la démocratie représentative, eh bien ce sont les plus riches. Sans doute pour qu'ils nous ruissellent dessus, sur nous, le bon petit peuple. On aurait pu vous parler de plein d'autres choses, mais finalement, encore une fois, on a préféré vous parler de santé publique. Mm-hmm. Les dernières fois, nous avons entendu Nathalie Bonvalot qui est intervenue pour nous entretenir de la santé publique et des difficultés à établir des indicateurs toxicologiques et enfin des effets des perturbateurs endocriniens. Au fait, pendant combien de temps les perturbateurs endocriniens peuvent générer des effets sur notre corps? Eh bien, Nathalie Bonvalot qui est... elle se présente elle-même.
Je suis Nathalie Bonvalot, je suis enseignante-chercheuse en toxicologie à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Et donc j'effectue mes recherches à l'Institut de recherche en santé, environnement et travail, qui est une unité de recherche INSERM, qui se trouve aussi à Rennes, sur le même site que le HESP.
Donc à propos de la persistance des perturbateurs endocriniens pour nous perturber les endocrines, eh bien on écoute Nathalie Bonvalot.
Vous parliez d'une temporalité chez les producteurs, mais c'est pas tout à fait la même chez l'être humain. Il apparaît que les perturbateurs endocriniens, et surtout les perturbations, bon, si elles existent par exemple chez une femme enceinte, ça va se transférer au fœtus, donc ça fait une génération supplémentaire. Et que même les glandes germinales du fœtus en question sont touchées, donc on peut aller vers les générations futures.
Oui, alors ça c'est une vraie problématique en santé environnementale qui n'est pas forcément d'ailleurs valable que pour les perturbateurs endocriniens, c'est la question des effets multigénérationnels. Sur les perturbateurs endocriniens, c'est assez clair, c'est que quand on est exposé pendant la grossesse, à des moments, alors c'est pas forcément tout le temps, mais à des moments où justement les hormones sont extrêmement importantes dans le développement des glandes du fœtus, on peut altérer ce développement des glandes. Si ça touche les cellules germinales de ces glandes sexuelles, on peut avoir soit un effet à la naissance qui sera visible. Alors on a des effets qui sont assez connus, c'est par exemple le testicule non descendu chez le petit garçon, donc qui aurait été exposé à des perturbateurs endocriniens au moment de la fabrication de l'appareil génital. Donc on peut avoir des choses visibles à la naissance, mais on peut effectivement avoir des choses qui sont vraiment présentes dans les cellules germinales, mais qui ne se voient pas, qui ne sont pas visibles, qui peuvent être rendues visibles pendant la croissance de l'enfant plus tard, à l'adolescence par exemple, quand il y a les caractères secondaires et donc la puberté et tout ça. Ça a été vu avec le Distilben par exemple, un médicament qui avait été donné dans les années 70 chez des femmes en observant les maladies chez leurs enfants et plutôt chez leurs filles, mais on voit aussi qu'il y a des effets chez les garçons. C'est comme ça qu'on a fait le lien avec les expositions pendant la grossesse, alors que du coup les effets se voyaient 15 ans après, 20 ans après. Et dernière chose, on peut effectivement aussi avoir des effets qui ne vont pas se voir sur l'enfant à naître, mais qui vont se voir sur la descendance de l'enfant. Et donc c'est là où on parle vraiment de multigénérationnel. Et ça c'est problématique parce que c'est une temporalité qui est extrêmement longue. Et donc comment fait-on aujourd'hui pour faire accepter d'un point de vue sociétal et économique des conséquences sur des générations de décisions qui sont prises aujourd'hui, sur des décisions qui sont un peu plus sur du court terme? En fait c'est extrêmement difficile.
La grossesse est un moment difficile puisque un bébé, un être se développe dans l'utérus de la mère. Et les hormones, ça y va tellement que il en est balancé vers le fœtus en question. Nathalie Bonvalot, toxicologue, prend l'exemple de l'appareil reproducteur. Mais ça peut aussi toucher l'ensemble de l'être humain en devenir. Par exemple, les squelettes des embryons et fœtus sont sensibles aux perturbateurs endocriniens entre la première et la 12e semaine. C'est à ce moment-là que se crée le squelette en question. Le système auditif, lui, se développe entre la 4e et la 20e semaine. Et bing, s'il y a des perturbateurs endocriniens chez la maman, eh bien forcément, il y en aura dans le système auditif du bébé en question. Quant au système nerveux central, il se forme entre la 3e semaine et l'âge de 20 ans. Donc une fois né, le bébé qui grandit continue à être potentiellement touché par des perturbateurs qui nous environnent. On l'a dit, ils sont présents dans l'eau, la nourriture, l'air et tutti quanti. On est encerclé, notamment par des produits de synthèse utilisés en agriculture, les pesticides et engrais. Et parfois, c'est même la médecine qui introduit le ver dans le fruit. L'exemple du Distilben, un médicament utilisé pour prévenir les fausses couches et les naissances prématurées, est là pour nous le rappeler. Donc, on sait maintenant que ce Distilben contribuait à perturber le développement des enfants in utero, avec des études médicales qui montrent que la 3e génération, donc les petits-enfants des 200 000 femmes qui furent traitées entre 1948 et 1977, ont deux fois plus de chances de développer un cancer du sein. Et c'est pour les filles. On parle alors d'effets multigénérationnels ou transgénérationnels. Et l'étude de l'expression des gènes, qu'on appelle l'épigénétique, nous en apprend tous les les jours. Et c'est pas joli. Des effets multigénérationnels ont été étudiés par exemple sur l'agent orange, ce défoliant utilisé par l'armée des États-Unis durant la guerre du Vietnam pour tuer les forêts qui permettaient d'abriter les ennemis, mais aussi sur le chlordécone, qui permit à des générations de métropolitains de manger des bonnes bananes produites dans les colonies françaises des Antilles et qui continue à tuer des gens à la Martinique par exemple. On entend encore, dans l'intervention de Nathalie Bonvalot, que l'économie joue un rôle très important dans la persistance de l'utilisation de produits dont on ne verra pas les conséquences bientôt là, non ? On les verra bien plus tard, c'est pas grave alors. Donc entre le court-termisme des libéraux en économie et la santé publique, le tempo n'est pas le même et le choix des libéraux, c'est le court-termisme. Et pourtant, on ne peut pas continuer à empoisonner la population. Ben non, on ne peut pas. On écoute à nouveau Nathalie Bonvalot.
Au-delà de l'interdiction, est-ce que, on parlait tout à l'heure d'action collective mais aussi d'action individuelle, est-ce qu'il est possible de se prémunir, en tout cas d'essayer de se prémunir de ces perturbateurs endocriniens ?
Oui, alors les perturbateurs endocriniens, on ne peut pas être exposé à zéro. Ça, il faut l'avoir en tête. Après, il ne faut pas non plus être défaitiste. Et je pense qu'il faut rester très optimiste parce que les actions collectives sont très très importantes aujourd'hui. Là, j'ai parlé de l'échelle européenne, mais au niveau des collectivités, il y a plein de choses qui se mettent en place aussi. Et puis ensuite, il y a effectivement les actions individuelles et on peut se prémunir de pas mal d'expositions embêtantes. Il y a des choses qui sont faciles à mettre en œuvre. Donc je vais donner quelques exemples. Quand on est à la maison et qu'on fait des activités à la maison, on utilise plein de types de produits. Déjà, réduire même nous, à la source, nos produits en fait. Par exemple, si on fait le ménage, au lieu d'acheter 10 produits différents pour le sol, l'évier, la cuisine, la salle de bain, je sais pas quoi, les toilettes, hein, on peut utiliser un ou deux produits multi-usages. Ça évitera les cocktails justement. Et ça, c'est pas très compliqué. Et en plus, c'est plutôt favorable pour le porte-monnaie. Sur l'aspect produits cosmétiques, on sait qu'on se tartine pas mal de cosmétiques quotidiennement. Sur la peau, on peut aussi réduire ou bien utiliser des produits plus simples. Aujourd'hui, il y a plein d'applications qui existent qui nous permettent de savoir quels sont les produits qui ne contiennent pas 37 ou 46 ingrédients dans un tube de gel douche. Donc, on peut se servir de ça pour utiliser des produits plus simples. Ensuite, comme on est beaucoup actif dans notre environnement intérieur, on fait aussi la cuisine, pensez à aérer, mettre la hotte. Et puis les recommandations aujourd'hui sont d'aérer sa maison 10 à 15 minutes tous les jours minimum. En fait, on a montré nous par des études que ça diminuait les taux de certaines molécules qui sont peut-être des perturbateurs endocriniens, comme des retardateurs de flamme qu'on met dans les canapés, les tissus pour éviter les départs de feu quand il y a des incendies. Et donc en fait, c'est très efficace et il suffit d'aérer sa maison. Pensez en fait à aérer tous les jours. Et ça dilue. Alors évidemment, l'air extérieur qui est aussi pollué, ça va rentrer. Mais en fait, le simple fait de diluer, ça va être bénéfique. Donc même s'il y a un peu de pollution de l'air extérieur qui rentre, c'est pas grave, on dilue tout ça.
Les produits les plus simples sont souvent les meilleurs et ne pas participer au délire de la spécialisation de ces produits, qu'ils soient cosmétiques ou pour laver. Ah oui, j'ai connu quelqu'un qui achetait de la crème pour les coudes. On se souviendra aussi que les produits cosmétiques servent à nous rendre beaux et à lutter contre les effets de ce qu'on met dans notre corps sous forme de nourriture et de ce qu'on met dans l'air comme produit polluant. Alors peut-être qu'on voit qu'il y a un cercle vertueux à enclencher. Ce serait par exemple d'éviter de mettre n'importe quoi dans notre corps et de faire attention aussi à ne pas produire des produits polluants qui vont nous entourer, que ce soit dans l'air, dans l'eau ou dans la nourriture. Chaque geste compte, mais aussi les actions collectives pour mettre les pollueurs le nez dans leur caca. Merci d'ailleurs à tous ceux qui régulièrement nous disent que des banques participent justement à la préservation de ce modèle de pollution, et également à tous ceux qui nous montrent que régulièrement que des entreprises, Total en l'occurrence, ont des actions qui font que notre environnement, nos milieux de vie sont de plus en plus pollués. Mais ensuite, est-ce qu'on peut faire encore autre chose ? Nathalie Bonvalot nous en dit plus.
Je parlais du bisphénol tout à l'heure, clairement les plastiques. Si on peut s'en passer, on s'en passe. Mais si vous avez déjà fait l'expérience d'avoir zéro plastique à la maison, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas possible. Donc après, on essaye de se passer des expositions les plus importantes. Donc on va éviter par exemple de chauffer les plastiques. Donc si on veut chauffer son plat au micro-ondes, on utilise un plat en pyrex, en verre, on n'utilise pas du plastique. On évite les revêtements antidérapants qui contiennent énormément des perfluorés de seconde génération, mais ça reste des perfluorés, donc ils sont peut-être moins toxiques, mais on ne connaît pas tout. On peut utiliser des casseroles en inox, ça c'est aussi des choses qu'on peut faire. Dans les emballages alimentaires, il y a plein de choses à faire. Les plastiques, on ne va pas forcément tous s'en passer, puis on peut conserver un truc dans un plastique, ce n'est pas forcément embêtant. Faut pas le faire chauffer, faut pas le laisser au soleil. Faut plutôt éviter aussi les produits gras qu'on met dans le plastique. La chaleur et le gras, c'est ça qui fait migrer finalement ce qui est dans le plastique et qui va se retrouver dans l'aliment derrière. Donc c'est une bonne façon de faire. Après, il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais qui sont peut-être plus compliquées parce qu'on peut pas les faire en continu. C'est par exemple pour réduire les expositions aux pesticides, on peut s'orienter vers une alimentation qui va être plus biologique. Mais voilà, encore faut-il ne pas manger dans les cantines. Enfin, ça, c'est plus compliqué à faire à l'échelle individuelle, je trouve. Donc, moi, je le mets pas forcément en avant. Surtout que déjà, si on lave bien ses fruits et légumes, avant même de penser bio, il faut... ce qui serait important, c'est de penser nutrition et donc de manger équilibré, ce serait déjà beaucoup. Donc, voilà, le bio, c'est bien, mais il faut aller vers le bio. Mais si on mange pas bio tout le temps, c'est pas grave non plus. Bah après, des recommandations qui sont plus d'ordre général, mais c'est vrai que si on peut éviter de prendre sa voiture pour éviter les pollutions, bah on la prend pas. Si on a le choix. Des fois, on a le choix, hein, quand on va acheter du pain pas très loin. Ou... voilà, penser plus global et savoir aussi que souvent, les gestes qu'on fait pour l'environnement sont des gestes qui sont aussi bons pour la santé. Donc, faut pas hésiter à être écolo, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors, personnellement, je dirais écolo sans les guillemets. Revenons à notre cercle vertueux, le cercle vertueux de l'alimentation bio, de l'utilisation des moyens de transport doux, comme on dit, de la limitation de sa consommation. C'est forcément bon pour vous, pour vos proches, le reste de l'humanité, mais insuffisant tant que le système économiste capitaliste, basé sur la philosophie libérale, sera en place. À propos de la restauration collective, un petit rappel.
Pour votre santé, évitez les pesticides et les aliments ultra-transformés. En cas d'inertie, faites bouger votre collectivité.
Et voilà, c'était un message de les pieds dans le plat, tout attaché, lespiedsdansleplat.org, qui est donc un collectif qui vise à faire bouger les collectivités sur la restauration dans les écoles. Mais j'imagine que vous pouvez aussi les booster, les collectivités, sur la restauration dans les restaurants administratifs, par exemple. Alors, laissons maintenant la conclusion à Nathalie Bonvalot, toxicologue.
Une petite conclusion quand même, moi j'ai tendance à être assez positive là-dessus. J'aime bien le principe de dire on a un constat qui peut faire peur, hein, qui peut angoisser beaucoup. Mais en fait, il y a plein de solutions et ces solutions, elles sont très efficaces. Il ne faut pas forcément se cacher derrière les peurs ou derrière même que les actions européennes, dont on sait qu'elles sont complexes sur des mandats, avec des coûts économiques. Il faut aussi vraiment avoir confiance et puis s'impliquer peut-être dans la vie des collectivités pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place à l'échelle collective, mais sur des plus petits territoires. Ça, c'est des choses qui marchent très, très bien. Il y a beaucoup de retours d'expérience sur, par exemple, les cantines sans plastique. Donc, on fait, voilà, il y a des choses qui se font là sur les paniers bio chez la femme enceinte, dans plein d'endroits. Et donc, ça, c'est des choses qui se jouent à l'échelle collective, mais on a tous un rôle. Et puis, après, il faut voir que nous, on peut mettre en place des petites actions simples aussi. Donc, restez positif là-dessus et pas angoissé du tout. Au contraire, c'est en étant informé qu'on arrive à prendre les bonnes décisions ensuite.
Bon, de fait, on sent bien dans son propos qu'elle lutte contre l'éco-anxiété et il faut s'informer. Informer, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Alors, à propos d'agir local en pensant global, on se souviendra de l'initiative de médecins réunis dans l'association Alerte des médecins sur les pesticides qui promeuvent les ordonnances vertes, ces paniers de nourriture bio pour les femmes enceintes financés par la Sécu et les collectivités territoriales dont nous nous sommes fait l'écho en avril. Alors, en attendant la sociale, qu'il ne faut jamais arrêter de préparer. Pas de plastique au micro-ondes. Tiens, une idée. Pas de plastique. Et puis tiens, pas de micro-ondes. Alors que se passe-t-il cette semaine? Eh bien le samedi 14 juin, 14h, rassemblement contre la guerre éternelle de l'extrême droite israélienne contre la population palestinienne à Gaza et dans les territoires occupés. À l'heure de la reprise des offensives militaires, ça continue encore et encore. Là maintenant, ils tirent sur les gens après les avoir convoqués pour leur dire « on va vous donner à manger ». C'est une horreur ce qui se passe. Comment ça se fait qu'on continue à regarder? Eh bien, on continue pas à regarder, hein, faut agir un minimum. Le samedi 14 juin, 14h, on peut pas vous dire que c'est Place de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un rassemblement au parvis devant la gare Nord à 14h à l'appel des syndicats sur le même sujet. Donc j'imagine qu'on peut se retrouver Place de la République ou à la gare à 14h le samedi 14 juin pour dire que là ça suffit, faut peut-être s'arrêter quand même. Ah, si seulement ça pouvait. Un avis à la population, l'allumette qui est le centre social autogéré situé dans le quartier de Pontlieu, 7 rue de la Marne, a toujours des activités au mois de juin avant de faire une pause sans doute au mois de juillet, mais on ne sait jamais. Eh bien, que vous dire? Vous dire par exemple que le samedi 28 juin, il y aura un café réparation, café couture, mais le samedi 21, il y aura un atelier informatique. Que tous les mercredis à 12h, c'est cantoche, on peut cuisiner à partir de 10h, etc., etc., c'est ouvert. Les mercredis et samedis de 14h à 19h, mais il y a aussi des activités diverses et variées. Et par exemple, l'Assemblée Générale qui est ouverte à tous les membres, tous et toutes, eh bien c'est le mardi 17 juin à 18h30. 18h pour les nouveaux et nouvelles. Pourquoi ? Eh bien pour l'accueil. Eh oui, on sait accueillir. Ça se passe donc 7 rue de la Marne à l'Allumette, le centre social autogéré, qui, comme le nom l'indique, ne s'occupe pas des services publics qui sont censés organiser nos vies. Bon, c'est un peu plus loin, mais à partir du vendredi 20 juin et jusqu'au dimanche 22 juin, à Paris, contre le Salon du Bourget, il y aura des actions. Si vous voulez en savoir plus, guerrealaguerre.net, un collectif qui est de plus en plus important. Guerrealaguerre.net, pourquoi ? Parce qu'on voit de plus en plus de militaires à la télé, on nous parle de réarmement, et pendant ce temps-là, les services publics sont en déshérence, mais non, il faut réarmer, il faut mettre du pognon dans la préparation d'un conflit. Lequel, ça on vous le dira quand ils nous auront dit qui est l'ennemi. Eh bien parce que, pourquoi ça se passe près du Salon du Bourget près de l'aérodrome du Bourget, eh bien parce que c'est le plus grand salon mondial de l'armement qui aura lieu du 16 au 22 juin. Donc à l'aérodrome du Bourget, plein de gens vont venir voir s'il n'y aurait pas des bonnes petites combines pour assassiner encore plus gaiement et encore plus efficacement le reste de l'humanité. Voilà, donc Guerre à la Guerre, une coalition pour désarmer le militarisme. Guerrealaguerre.net pour en savoir plus. Et puis il se passe d'autres choses, donc je vous rappelle que vous pouvez aller voir sur Sarthe. Demosphère.net, ça c'est pour la Sarthe. Et puis tout autour de nous, y en a d'autres qui agissent, que ça soit Nantes, Rennes, Angers, Tours, etc. Donc Demosphère.net, ça peut vous donner aussi des informations sur ce qui se passe dans le reste de la France. Et pour la Sarthe, rebelote, Sarthe.demosphère.net. Bon, en attendant de se retrouver pour la faire, cette fameuse sociale, je vous dis tout simplement, allez, au revoir. Mm-hmm.